de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La principale mosquée de Tokyo a finalement ouvert ses portes après avoir été fermée pendant 10 semaines. La Grande-Bretagne a demandé à tous ses citoyens de quitter la Birmanie. L'arrestation de 600 femmes, l'ONU Femmes condamne la violence en Birmanie. L'autoroute maritime est un pilier de transport à la frontière de l'Indonésie et de la Malaisie. L'Indonésie, l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé ont convenu d'accroître leur coopération dans le traitement de la COVID-19. Je termine nous présentant maintenant le journal complet. La principale mosquée de la capitale japonaise, Tokyo, est finalement rouverte pour les prières de la congrégation après avoir été fermée pendant 10 semaines en raison des restrictions de la COVID-19. Des protocoles de santé stricts sont effectués pendant les prières. Les fidèles doivent porter des masques, maintenir leur distance physique et utiliser des tapis de prière jetables. Comme l'a rapporté Andolu, la mosquée a été fermée pour les prières de la congrégation à la fin du mois de décembre dans le cadre des efforts visant à prévenir l'infection à la COVID-19 à Tokyo, la région la plus durement touchée par la pandémie. Le nombre de cas de la COVID-19 au Japon à ce jour a atteint 443 714, dont 8457 décès. La Grande-Bretagne vendredi a exhorté ses citoyens à quitter la Birmanie ou s'ils ne peuvent pas sortir du pays à rester chez eux. L'appel est intervenu un jour plus tôt, jeudi 11 mars. Un groupe de défense des droits a déclaré que les forces de sécurité avaient tué 12 manifestants. L'appel aux Britanniques à quitter la Birmanie est également fait alors que l'avocat de Suu Kyi se moquait des nouvelles allégations de corruption qui avaient été déposées contre son client. Le gouvernement britannique a affirmé que la violence en Birmanie intensifiée après que l'armée a renversé le gouvernement Aung San Suu Kyi lors d'un coup d'État le 1er février. La Grande-Bretagne a condamné la violence en Birmanie et a appelé au rétablissement de la démocratie. L'Agence des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes condamne l'utilisation de la violence et de la force meurtrière par les forces birmanes contre les manifestants pacifiques pro-démocratie. Cette réponse répressive a tué 6 femmes et abouti à l'arrestation de près de 600 femmes, y compris des jeunes femmes et des activistes de la société civile. Cela a été déclaré par la directrice exécutive de l'ONU Femmes, Pumzil Mlambo Ngchuka, dans une déclaration écrite qui a été reçue par Antara vendredi. Les femmes jouent depuis longtemps un rôle important dans l'histoire de la Birmanie. C'est pourquoi l'ONU Femmes estime que les femmes ne devraient pas être attaquées et punies lorsqu'elles expriment pacifiquement leurs opinions. Depuis que l'armée a organisé un coup d'État contre le chef de la Birmanie Aung San Suu Kyi le 1er février 2021, plus de 60 manifestants auraient été tués et au moins 2000 détenus par les forces de sécurité. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef du bureau des autorités portuaires de classe 4, Nunukan, M. Johannes Tedang, a déclaré que le port de Nunukan était un point d'entrée pour répondre aux besoins de base et aux matériaux de construction des communautés frontalières de la province de Kalimantan du Nord de l'Indonésie et de la Malaisie. Dans un communiqué reçu par Antara à Jakarta vendredi, Tedang a déclaré que jusqu'à présent, le piège maritime a joué un rôle dans la satisfaction de la plupart des besoins des habitants des îles de la régence de Nunukan. Le piège maritime préparé par le gouvernement est très utile pour les besoins des gens à la frontière, notamment dans la régence de Nunukan qui est directement adjacente à la Malaisie, avec des horaires et des itinéraires réguliers et des tarifs bas, dû aux subventions, c'est une des raisons pour lesquelles les populations locales choisissent de profiter du péage maritime, que ce soit pour recevoir des envois et envoyer leurs produits. Tedang a mentionné que les marchandises apportées à Nunukan comprennent des matériaux de construction, des nuits, de la farine, de l'eau minérale, des algues et d'autres besoins de base. Le ministère indonésien de la Santé, l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé ont convenu de renforcer leur coopération face à la pandémie de COVID-19 pour arrêter la propagation du virus corona dans la région. C'est ce qu'a déclaré vendredi le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin à Jakarta, lors du lancement du partenariat entre l'Union européenne, l'Organisation mondiale de la santé et le ministère indonésien de la santé pour la préparation et la réponse à la pandémie COVID-19, assisté par le ministre de la santé Budi Gunadi Sadikin, le représentant de l'OMS pour l'Indonésie, Dr. Navaratnasami Paranitaran, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Piquet. Le ministre Gunadi a déclaré que le soutien de l'Union européenne et l'OMS continue d'affluer vers l'Indonésie pour garantir que le public puisse appliquer les protocoles de santé. À la même occasion, Navaratnasami Paranitaran a déclaré que le partenariat entre l'Union européenne, l'OMS et le ministère indonésien de la Santé pour la préparation de la réponse à la pandémie COVID-19 vise à aider l'Indonésie à mieux gérer la pandémie par des tests de virus corona, à la recherche de contacts étroits, à suivre le traitement et disponibilité du laboratoire. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Le gouvernement provincial de Bengkulu est prêt à proposer 3 figures de combattants de l'indépendance de la région pour être désignés comme héros nationaux, à savoir A.M. Hanafi, Indra Cahya et Abdul Rifai. Le gouverneur de Bengkulu, Rohidin Mersyah, à Bengkulu, mercredi 10 mars, a déclaré qu'à l'heure actuelle, seules 2 personnalités de Bengkulu qui ont été reconnues et sont désignées comme des héros nationaux pour leur contribution à la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie. Ils sont Madame Agung Fatmawati Soekarno et Hazairin, l'expert en droit coutumier qui sont devenus résidents de Bengkulu en 1946. Les nouvelles suivantes sont venues de Depok, Java Occidental. Le classement mondial des universités Kwakwerele Simon 2021 a désigné la faculté de droit de l'Université d'Indonésie comme la meilleure faculté de droit d'Indonésie. Le doyen de la faculté de droit de l'Université d'Indonésie, Dr. Eman Makarim, dans sa déclaration écrite à Jakarta lundi 8 mars, a déclaré que cette faculté était classée dans le classement 151-200 du classement mondial des universités par sujet dans le domaine du droit et des études juridiques en 2021, suivie par la faculté de droit de l'Université Erlangga et la faculté de droit de l'Université Gajah Mada, respectivement sont classées 250-300. Le classement mondial des universités Kwakwerele Simon est le seul classement international reconnu par International Ranking Expert Group et considéré comme l'un des 3 classements universitaires les plus influents au monde, ainsi que classement des universités mondiales du Time Higher Education et classement académique des universités mondiales. Les dernières nouvelles sont venues de Jambi. La ministre indonésienne des Affaires sociales, Madame Tri Risma Hari Ini, a examiné l'enregistrement des cartes d'identité électroniques des résidents de la tribu Anak Dalam dans le village de Jeluti, la régence de Patang Hari dans la province de Jambi, le mercredi 10 mars 2021. La tribu Anak Dalam est l'un des groupes ethniques minoritaires qui se déplacent encore sur l'île de Sumatra, notamment dans les forêts autour des provinces de Jambi et Sumatra du Sud. La ministre Tri Risma Hari Ini a déclaré que l'enregistrement de la carte d'identité électronique était un effort pour accélérer le respect des droits civils des communautés traditionnelles isolées dans la tribu Anak Dalam qui serait intégrée aux données intégrées sur le bien-être social. À cette occasion, la ministre a également remis un paquet d'assistance à la tribu Anak Dalam sous forme de vêtements, de riz, de nourriture pour les enfants, de médicaments, de nutrition et de graines de plantes. L'un des chefs de la tribu Anak Dalam, nommé Temanggung Ngerang, a remercié le gouvernement parce que selon lui, la carte d'identité électronique pourrait être utilisée par la tribu Anak Dalam pour obtenir des installations publiques et l'aide du gouvernement. Chers amis, c'était les nouvelles de l'Indonésie. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 13 mars 1948, le groupe terroriste Agana a massacré des Palestiniens. Le 13 mars 1948, le groupe terroriste sioniste Agana a attaqué le village Husseiniyah situé à Jalilah North. Dans cette attaque, le groupe Agana a détruit des maisons appartenant aux civils palestiniens et 60 villageois ont été massacrés. L'armée sioniste a fait sauter des maisons à Baitul Maqdis, tuant et blessant un certain nombre de Palestiniens. À cette époque, les sionistes s'apprêtaient à proclamer la mise en place d'un gouvernement israélien illégal. À travers ces actes de terreur, ils espèrent effrayer le peuple palestinien à quitter sa patrie. Le 13 mars 1976, Ali Sastro Amijoyo, le 8e Premier ministre indonésien, est décédé. Ali Sastro Amijoyo est une figure politique, gouvernementale et nationaliste. Il a reçu le titre de diplôme de droit de l'Université de Leiden, Pays-Bas, en 1927. Il est également le 8e Premier ministre d'Indonésie, qui a exercé deux fonctions au cours de la période 1953-1955 et 1956-1957. Il est décédé à Jakarta le 13 mars 1976 à l'âge de 62 ans. Le 13 mars 1992, le tremblement de terre de magnitude de 6,8 échelle de Richter a secoué Erzincan en Turquie. Le séisme qui a été suivi de deux autres séismes a tué 500 personnes et fait 50 000 citoyens. Des 90 000 citoyens de la région Erzincan ont perdu leur maison. Le séisme s'est produit le 13 mars 1992. Pour coïncider avec le mois sacré du Ramadan. La plupart des résidents à cette région se préparent à rompre leur jeûne. Pendant 17 secondes, un choc violent qui a commencé à 19h locale a fait tomber des bâtiments et couper l'électricité dans la région. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu. Di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersih.
menyala dan tak bersinar. Remas sayangku jangan pernah lepaskan, bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
C'était la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique « Mon Indonésie » intitulée Cette entreprise publique a collaboré pour augmenter le tourisme. Cette entreprise publique a signé un protocole d'accord concernant la collaboration du programme stratégique des entreprises publiques pour l'écosystème touristique mercredi 10 mars. Le ministre des entreprises publiques, Erick Thohir, a bien apprécié cette collaboration afin de relancer le marché du tourisme national et international. Erick Thohir a déclaré que l'une des fonctions des entreprises publiques est en tant qu'agent de développement, de sorte qu'ils jouent un rôle important dans le programme de relance économique nationale. Les sept entreprises publiques collaborent pour devenir le moteur de la croissance du secteur du tourisme et avoir un impact positif sur d'autres acteurs commerciaux. Les entreprises publiques collaborateurs sont PT Angkasa Pura, PT Angkasa Pura 2 et 1, PT Garuda Indonesia, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan E Ratu Boko, PT Hotel Indonesia Natur et PT Sarinah. Dans une déclaration écrite publiée par le ministère des entreprises publiques, il a été déclaré que les sept entreprises publiques travaillent ensemble pour formuler des programmes stratégiques de développement du tourisme. Ils réaliseront un programme d'accélération lié à la promotion conjointe, à la vente croisée, à la stratégie de groupage et à la fabrication de produits liés au tourisme selon la nouvelle norme. Cette collaboration de sept entreprises publiques est un effort pour former un marché par l'équipe du bureau de gestion de projet, par la holding des entreprises publiques tourisme et supporter dans un premier temps avant la formation, la holding ou la société. Le processus de création d'une société holding de tourisme et de soutien des entreprises publiques est actuellement toujours en cours. Bien que la société holding des entreprises publiques pour le tourisme et des entreprises publiques de soutien soit toujours en cours de formation, mais les sept entreprises publiques ont entamé le processus de collaboration et de la transformation dans divers domaines pour se préparer à mieux servir la communauté en garantissant la disponibilité de produits et services touristiques de qualité, abordables et intégrés. Dans la déclaration écrite, le ministre de l'Entreprise publique, Erick Thohir, a déclaré que l'objectif de la société holding touristique et de ses partisans était d'encourager la mise en œuvre d'initiatives intersectorielles intégrées, de développer le tourisme et l'infrastructure de soutien, d'accroître la compétitivité et de renforcer les capacités de financement dans l'avenir. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie.
Tanya-tanya, inginnya ku dekati. membuatku terpana. Hanya kaulah dambaanku, nona hanya kaulah yang kutunggu. Jangan dulu lama-lama terpisah ungkapan. Jangan lama-lama, cukup ya. Rasa kesakitnya, jawablah temanku.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz, 4750 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel intitulé Kanto Lampo, la belle cascade à Gianyar, Bali. L'île de Bali offre toujours sa beauté naturelle qui est déjà célébrée dans le monde. De belles plages, des attractions aquatiques qui attirent les touristes du monde entier, y compris la cascade Kanto Lampo située à Banjar Kelot Kangin, Gianyar, Bali. La cascade de Kanto Lampo est située dans les basses terres. Elle coule d'une hauteur d'environ 15 mètres. La forme est en terrasse pour que l'eau qui tombe ne provoque pas un courant trop fort. Cette cascade de Kanto Lampo n'est pas comme une cascade en général qui tombe tout droit, mais l'eau qui coule se propage assez rapidement sur le côté, de sorte que c'est comme un rideau blanc entre des vallées noires. L'eau qui tombe à travers les vallées de roches noires avec la décoration de plantes vertes autour d'elles rend l'atmosphère très belle et fraîche. Sur la cascade de Kanto Lampo, il y a une piscine qui n'est pas trop grande ni trop profonde. Nous pouvons nager, jouer dans l'eau ou simplement nous asseoir sur les rochers tout en sentant l'eau fraîche, claire et propre. Les heures d'ouverture de la visite de la cascade de Kanto Lampo sont 8h jusqu'à 17h30 et sont ouvertes tous les jours du lundi jusqu'au dimanche. Un billet d'entrée est 20 000 rupies par personne. Si vous êtes à Bali, visitez la cascade de Kanto Lampo à 30 km de Denpasar et seulement 1 km du parc de la ville de Gianyar. En plus d'avoir une nature magnifique, cette destination touristique est idéale pour se reposer de toutes les routines. La cascade est également un lieu saint. l'eau de la cascade de Cantolampo est utilisée pour les cérémonies et aussi une source d'eau potable pour la population locale. C'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masker を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你。你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Menyakiti dirimu. padamu.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'Indonésie en couleur, intitulée « La police virtuelle ». Récemment, le quartier général de la police nationale indonésienne a lancé la police virtuelle. L'unité initiée par le chef de la police nationale, le général Listio Sigit Prabowo, a été créée pour empêcher les actes criminels dans le cadre de la loi sur l'information et les transactions électroniques. Le chef de la division des relations publiques de la police nationale, l'inspecteur général Argo Yuwono, a expliqué que la présence de la police dans l'espace numérique est une forme de maintien de la sécurité de l'ordre communautaire afin que le cybermonde puisse se déplacer proprement, sainement et de manière productive. Argo Yuwono a souligné que ses agents fourniront une éducation concernant le contenu diffusé par certaines parties s'il a le potentiel de violer un acte criminel. Selon Argo Yuwono, s'il y a un message qui a le potentiel de violer un crime, la police donnera un avertissement au compte, faisant référence à une étude approfondie avec des experts. Ainsi, la police virtuelle n'opère pas seulement selon sa propre subjectivité. Concernant le processus, la police virtuelle donnera un avertissement si elle trouve du texte ou des images susceptibles de violer un crime. Les enquêteurs prendront des captures d'écran pour mener des consultations avec une équipe d'experts composée d'experts criminels, linguistiques et la loi sur l'information et les transactions électroniques. L'avertissement ira directement à la colonne de marche ou au message direct du propriétaire du compte qui a téléchargé le contenu. L'objectif est que les utilisateurs des réseaux sociaux ne se sentent pas insultés par les avertissements donnés. Après le message est reçu, la police espère que le contenu criminel présumé sera supprimé par le propriétaire du compte. Si le propriétaire du compte est encore réticent à supprimer son téléchargement, des avertissements continueront d'être donnés tant qu'il y aura des parties qui se sentent désavantagées par le téléchargement. Si la personne qui se sent laissée fait un rapport à la police, alors le devoir de la police est de faciliter une voie pacifique tout au long du processus de médiation. Le chef de la police nationale a publié deux directives pour la police afin de faire du processus d'application de la loi un dernier recours dans le traitement des affaires de la loi sur l'information et la transaction électronique. Le chef de la police nationale publie des circulaires et des télégrammes. Chacun dispose d'une séquence de méthodes permettant aux enquêteurs de répondre aux affaires de cybercriminalité. Le chef de l'agence d'enquête criminelle de la police nationale, le commissaire général de police Agus Andrianto, a déclaré que son parti punirait les enquêteurs qui attendraient ces directives. Selon Agus, c'est un moyen d'éviter les préjugés et la subjectivité des enquêteurs dans l'acceptation ou la poursuite des cas de l'information et les transactions électroniques dans la société. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Jauh lagi ber.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici le magazine musical. Aujourd'hui, je vous présente une chanson de Kroncong intitulée Burung Kenari. Cette chanson a remporté le festival de Kroncong en 1978 à 1979. Cependant, on ne sait pas qui a écrit cette chanson. Cette chanson, qui est dans un tempo modéré, parle de la beauté et de la mélodie du gazouillis de Canaries. Même si leur corps est petit, son pépiement a de nombreuses variations. Ils peuvent pépier jusqu'à 25 secondes. Et beaucoup de gens aiment écouter leur gazouillis comme divertissement. Bon, chers auditeurs, voici Toto Salmon avec la chanson intitulée « Burung Kenari » ou en français « L'oiseau de Canaries ». Bonne écoute.
Merupakan lagu Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.